RFI. Grand reportage.
Nous avons fui. Le futur, pour nous, c'est la fin de la guerre. Le futur, c'est l'amélioration de la situation dans le pays, afin que nous puissions enfin rentrer chez nous. L'avenir en Égypte, il n'y en a pas.
Un an après le déclenchement de la guerre au Soudan, entre l'armée du général Al-Burhan et les forces de soutien rapide, c'est par centaines de milliers que les Soudanais se sont réfugiés dans les pays alentours. On parle d'1,5 million à 1,8 million de personnes. Beaucoup ont emprunté la route vers l'Égypte, où leurs conditions de vie demeurent très précaires. L'exil sans terre promise, c'est un grand reportage de Léonie Lebrun.
La nuit vient de tomber sur le village de Wadi Karkar, au cœur du désert égyptien, à l'ouest du lac Nasser.
Là, il y a 5 familles dans une seule maison, 5 familles. Chaque famille compte peut-être 5, 6, 7 personnes. Et on a beaucoup de situations comme ça.
Il y a beaucoup de maisons comme ça ?
Oui, beaucoup, particulièrement depuis janvier, février, mars. Toutes les familles sont arrivées illégalement et souvent sans les hommes.
Alaa travaille auprès des familles logées dans ce complexe immobilier construit par l'armée égyptienne, d'abord destiné aux familles nubiennes, dépossédées de leurs terres après la construction du barrage d'Assouan et la montée des eaux du Nil. Le village accueille désormais des centaines de familles soudanaises. Dans une rue déserte, la porte d'une petite maison s'ouvre. Kauter nous accueille chez elle. 11 membres de cette famille ont fui Khartoum, 7 adultes avec 2 enfants et 2 bébés.
D'abord, dites-moi quelle est votre situation en Égypte. Vous me dites que vous vous sentez en sécurité, que vous voulez rester ici.
Maintenant, je peux vivre ici avec mes fenêtres grandes ouvertes. Grâce à Dieu, ici, nous sommes en sécurité. Je n'ai plus la peur des balles ou la crainte que mes enfants soient blessés. Nous sommes en sécurité de jour comme de nuit, grâce à Dieu.
Les pièces sont quasi vides, de grands espaces aux murs jaunes dépourvus de tout mobilier, un espace cuisine où les ustensiles sont posés à même le sol et quelques couvertures étendues sur le carrelage font office de lit.
De quoi avez-vous le plus besoin finalement ?
Nous avons besoin de beaucoup de choses. De nourriture, car nous ne voulons plus aller en réclamer aux autres maisons. Un réfrigérateur et des lits. Monsieur a dit qu'il nous installerait 5 lits. Je tiens à le remercier.
Kauter lève les yeux vers un des gestionnaires du village qui travaille en étroite relation avec le ministère égyptien de l'éducation.
Je suis Ahmed Abdelhamid, principal du lycée ici et directeur de la fondation Développement de la communauté de Wadi Karkar depuis maintenant 2 ans.
Et qu'est-ce que vous avez constaté depuis un an et le début de la guerre ?
Dans les premières semaines, la première vague de Soudanais voulait voyager directement d'Assouan vers le Caire ou d'autres pays. La plupart d'entre eux avaient une double nationalité, suisse, américaine, canadienne, britannique, et tous avaient une situation financière confortable. Puis, les vagues qui ont suivi, c'était les classes moyennes, et enfin plus tard, les gens qui n'ont rien. C'était un grand problème, car les ressources de la fondation étaient au plus bas.
Mais il vous manque de quoi meubler les maisons.
Nous avons pu meubler 10-12 maisons pour assurer un logement correct aux Soudanais qui sont arrivés là. Mais leur nombre a augmenté. Des gens nous ont aidés, ont apporté de la nourriture, des pommes de terre, du matériel de cuisine, des gazinières. Et on a pu améliorer comme ça la situation des réfugiés.
Et combien de Soudanais sont logés ici désormais ?
Après un an, le village héberge entre 400 et 500 familles soudanaises, ce qui est l'équivalent du nombre de Nubiens qui vivent ici, si ce n'est plus. Récemment, énormément de Soudanais ont traversé la frontière égyptienne illégalement. Et c'est un nouveau poids d'avoir ces nouvelles familles au village, avec nos ressources qui sont limitées pour aider.
Kauter et sa famille sont exactement dans cette situation, illégaux sur le sol égyptien. Le gouvernement tolère leur présence dans l'unique périmètre de Wadi Karkar, mais tous craignent d'être déportés vers le Soudan.
Il y a une tolérance du gouvernement, oui, mais depuis que nous sommes ici, nous n'autorisons pas nos enfants à quitter le village pour aller en ville. Nous avons peur, nous devons rester très vigilants jusqu'à ce qu'on légalise notre statut en Égypte. Mais nous travaillons pour avoir notre carte du Haut Commissariat aux réfugiés, pour légaliser notre statut de résidence. Ce serait plus sûr. Les procédures sont en passe d'être terminées. Cela nous donnera la liberté de mobilité ailleurs en Égypte. Et nous aimerions aussi que nos enfants retournent à l'école. Nous sommes venus ici pour leur avenir, après avoir perdu l'espoir au Soudan.
Dans une maison voisine, une autre famille. Là aussi, les petits dorment sur des couvertures à même le sol. Maysoun, leur mère, a pu entrer en Égypte légalement avec un visa tourisme.
D'abord, pouvez-vous vous présenter et me dire avec qui vous êtes venu ici et depuis quand ?
Je m'appelle Maysoun Mohamed. Je suis arrivée le 22 janvier 2024, moi avec mes enfants, ma mère et mon mari.
Combien d'enfants ?
4. Fatma, 9 ans. Isra, 7 ans. Mohamed, 4 ans et demi. Et Razan, 18 mois.
Et vous êtes originaire ?
Soudan ? Nous sommes de Khartoum Nord.
Malgré son diplôme et son expérience de statisticienne, elle doit encore compter sur la solidarité des habitants du village. Il n'y a pas d'opportunité d'emploi.
Le premier problème, c'est qu'il n'y a pas d'opportunité ici au village. Si vous voulez trouver, il faut aller voir en ville, à Assouan. Et je cherche un travail, car la maison a besoin de meubles. Et bien sûr, il y aura l'an prochain les frais de scolarité des enfants.
Départ de Wadi Karkar, précaire îlot de sécurité pour les Soudanais arrivés au sud de l'Égypte. Direction Assouan, à 30 km au nord, première grande ville depuis la frontière, avant de regagner le Caire, la tumultueuse et gigantesque capitale égyptienne. Le métro nous mène jusqu'au quartier d'Ain Shams, où vit une importante communauté soudanaise. Dernière étape, en tuk-tuk, pour se faufiler dans les ruelles du quartier, accompagné de notre fixeur, lui-même soudanais, réfugié au Caire depuis 7 ans.
Est-ce que tu peux me dire où on est là exactement ?
Nous sommes maintenant à Zahra Ain Shams.
D'accord.
Zahra Ain Shams, c'est un quartier annexé au quartier de Ain Shams.
Et si tu devais me décrire un petit peu le quartier, c'est là que vit une communauté soudanaise très importante, c'est ça ?
Oui, exactement. La communauté soudanaise vit ici. Généralement, c'est la zone la plus populaire.
D'accord.
Après l'éclatement de la guerre, il y a pas mal quantité de Soudanais qui sont venus à Zahra Ain Shams. Ils sont hébergés chez leurs proches.
Et comment toi, tu décrirais les conditions de vie des Soudanais qui sont dans ce quartier annexe d'Ain Shams, Zahra Ain Shams ?
Les conditions de vie sont très terribles ici, parce que les appartements sont très étroits. Mais même si pour d'autres moyens de vivre, subsister, c'est très difficile. Parce que la majorité de ces gens hébergés ne travaillent pas, ils n'ont pas un travail.
Ils n'ont pas non plus de statut administratif à jour.
Le statut n'est pas clair. Donc c'est très difficile pour eux, mais ils ne peuvent pas bouger librement.
C'est là ?
Une famille de 8 réfugiés soudanais s'est installée dans le quartier à l'été 2023, dans l'appartement qui dispose de seulement 2 chambres, 2 enfants en bas âge courent d'une pièce à l'autre. Marwan Hassan, 35 ans, est originaire de Khartoum. Ses souvenirs du conflit dans la capitale soudanaise sont encore vifs.
La guerre est soudainement arrivée, personne ne s'y attendait. Tous les citoyens soudanais étaient surpris car personne n'imaginait que la guerre toucherait la capitale soudanaise. Le jour où la guerre a éclaté, c'était tragique. Les bombes tombaient partout, beaucoup de jeunes ont perdu la vie. Nous avons perdu des amis qui habitaient le quartier avec nous. C'était une grande perte pour nous.
Vous êtes resté quelques mois à Khartoum dans l'espoir que la guerre s'arrête et puis vous avez dû fuir.
Oui, le 2 août 2023, je suis entré en Égypte.
Et c'est vous qui assurez aujourd'hui le soutien financier à l'ensemble de la famille?
Je travaille comme professeur d'anglais. J'enseigne hors d'Ain Shams, c'est très éloigné d'ici. Personne ne travaille à part moi. Ma mère et ma sœur ne travaillent pas. C'est très difficile pour elles de trouver un poste. Ce n'est pas comme dans notre pays. Chez nous, nous travaillons tous. En Égypte, en tant que réfugié, ce n'est pas évident du tout. Nous sommes 8 personnes dans cet appartement, sans compter les enfants. Le loyer varie entre 2500 et 3000 livres égyptiennes. Ça, le gaz et l'électricité.
Il n'y a pas d'aide du gouvernement.
Nous n'avons aucune aide.
Sa mère, Aziza, 74 ans.
Nous avons fui. Le futur pour nous, c'est la fin de la guerre. Le futur, c'est l'amélioration de la situation dans le pays afin que nous puissions enfin rentrer chez nous. L'avenir en Égypte, il n'y en a pas. On a juste de quoi manger, boire, payer le loyer. Grâce à Dieu, nous habitons un petit logement à 8, 9 ou 10 personnes dans un appartement. Et nous avons de quoi manger et boire.
Dans la cuisine, 3 jeunes femmes préparent le repas de l'iftar, repas de la rupture du jeûne pendant le ramadan.
Vous préparez l'iftar ?
Oui, c'est pour l'iftar.
Vous préparez quoi, du riz ?
Non, c'est un plat soudanais qui s'appelle Asida.
Ah, ça sent bon.
Alors, on coupe les oignons, la viande, les tomates, les okras. On mélange. Allez, reste, mange avec nous.
Et là, c'est la salle de bain, vous avez l'eau tout le temps?
Non, il y a des problèmes avec l'eau.
Il n'y a pas de douche, hein, c'est ça?
Non, juste une bassine.
Goufran, jeune maman de 27 ans, s'extrait de la cuisine quelques instants.
J'ai un rendez-vous pour m'inscrire auprès du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés. C'est le 22 mai. C'est très loin, ce rendez-vous.
Comment vous décririez la vie à Ain Shams?
Concernant la vie à Ain Shams, je ne sors pas beaucoup. Je suis toujours à la maison, car je n'ai aucun document officiel qui justifie mon séjour au Caire. Je suis arrivée illégalement, alors je reste chez moi, je descends juste au marché. J'ai peur sinon d'être arrêtée et déportée jusqu'à Wadi Halfa.
Est-ce que vous avez des difficultés avec certains Égyptiens, du racisme par exemple ?
Les problèmes auxquels nous sommes confrontés, ce sont le racisme et la moquerie. On nous dit « Ya Samara, oh la noire ». Mais pour l'instant, ça ne va pas plus loin.
Le racisme puise aussi ses racines dans la situation économique catastrophique de l'Égypte. Une partie de la population accepte difficilement l'arrivée des nouveaux demandeurs d'emploi, comme nous l'explique Marwan.
Ils nous disent « Vous avez saturé le pays, vous créez une saturation ». Ils pensent que l'arrivée des Soudanais est une mauvaise chose. Ils ne sont pas conscients. L'arrivée des Soudanais, c'est une bonne chose, car les Soudanais dépensent de l'argent ici, font vivre l'économie. Ce n'est pas ça qui impacte l'économie égyptienne. Si l'économie égyptienne est impactée, ils doivent chercher d'autres causes.
« Retour au cœur de la ville, dans un immeuble qui surplombe le Nil. Le bâtiment, appelé ici World Trade Center, abrite une partie des bureaux du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. Christine Béchaï, responsable des relations extérieures du Haut Commissariat.
Le HCR gère les demandes d'asile au nom du gouvernement égyptien depuis 1954. Donc, quiconque se rend dans nos bureaux obtient un rendez-vous. Ils présentent leurs documents et peuvent s'enregistrer comme demandeurs d'asile. Une fois ce document obtenu, ils peuvent obtenir un permis de résidence de 6 mois renouvelé et délivré par les autorités de l'immigration.
Combien de personnes ont obtenu le statut de demandeur d'asile depuis un an ?
Depuis le 15 avril 2023, le nombre de Soudanais réfugiés enregistrés auprès du HCR a augmenté de 61 000 à près de 300 000 personnes. Donc on parle de 240 000 personnes enregistrées en un an.
Plus de 200 000 Soudanais seraient quant à eux sur le sol égyptien sans avoir encore obtenu le statut de réfugié. Ils pointent un système d'enregistrement lent, saturé, complexe et qui présente peu d'avantages. Aucune aide du gouvernement. La solidarité intracommunautaire est alors le seul salut dans une Égypte affaiblie et autoritaire.
Je me demande pourquoi ils font tout cela au Soudan. Les gens étaient heureux, avaient de la nourriture, avaient tout. Pourquoi est-ce que cela arrive? Ils nous ont forcés à fuir nos maisons, nos foyers. C'est monstrueux. Mais nous ne pouvons que remercier Dieu, car c'est sa volonté et nous devons avoir foi en lui pour avoir un meilleur avenir.
L'exil sans terre promise, un grand reportage de Léonie Lebrun, réalisation Alice Ménard. نحنا مع الطيور اللي ما بتعرف ليها خرطة والله نحنا مع الطيور اللي ما بتعرف ليها خرطة ولا في ايد جواز سفر والله نحنا مع الطيور بتعرف ليها خرطة والله اللي احنا مع الطيور اللي ما بتعرف ليها خرطة ولا في ايد جواز سفر نمشي في كل المدايل نمشي في كل المدايل نبني عشنا بالغناوي وننصر الأفراح درر ربيع سكن جوارنا والسنابل تملى دارنا ربيع سكن جوارنا والسنابل تملى دارنا والرياحين والمطر والله نحنا مع الطيور الما بتعرف ليها خرطة